Bonjour la Méditerranée et bienvenue comme chaque semaine dans Cantara, le magazine d'actualité des deux rives de notre Méditerranée. Cette semaine, un Cantara spécial pour Saïd. Pour Saïd, cette petite ville portuaire qui relie les deux mers, la mer Méditerranée à la mer Rouge. Cantara est le fruit d'une large coopération avec Radio Tunis, chaîne internationale Maya Dassili, chaîne Interaba Nadira Belkhoutout et Mohamed Choui, France Bleu, RCFM Pierre-Marie, Thomas Brunelli et Pierre-Louis Alessandri, Radio Extérieure d'Espagne, Immanuel Zahr, Algérien 3, Linda Bouadma et Radio Le Caire d'Ina Abdelmegid. Nous débutons ce Cantara avec une chanson port-saïdienne, Port Saïdi au bamboutier. Saïd est une petite ville portuaire du nord-est égyptien comprenant environ 500 000 habitants. La partie de la ville qui s'étend à l'est permet donc de se retrouver sur le continent asiatique à Port Fouad, zone résidentielle. C'est une ville essentielle du commerce égyptien, tout comme Alexandrie. Une bonne partie des productions égyptiennes, comme le riz ou le coton, passe par ce port. De plus, l'endroit est un point important du ravitaillement des navires en provenance du canal de Suez. En 1976, la ville a obtenu le statut de zone franche, d'où l'augmentation croissante de son trafic, certaines marchandises pouvant être exemptées de taxes et de droits de douane. La ville est née d'un projet fou mais réussi, celui de relier la mer Méditerranée à la mer Rouge par un canal au XIXe siècle. Véritable aventure humaine et technique, le percement du canal de Suez a été l'œuvre d'un homme, le diplomate Ferdinand de Lesseps. Lesseps connaît bien l'Égypte. Vice-consul à 27 ans, Alexandrie, il donne des leçons d'équitation au fils préféré du khédive Mohamed Saïd, qui gouverne l'Égypte au nom du sultan d'Istanbul. Il rencontre Alexandrie les Saint-Simoniens qui lui ont proposé l'idée de ce projet et arrive à le convaincre. L'ingénieur Prosper Enfantin l'avait proposé à l'époque à Mohamed Ali, sans intérêt, mais enfin Ferdinand de Lesseps adhère à son projet de construction d'un canal dans l'isthme de Suez. L'arrivée au pouvoir de son ancien élève le vice-roi Saïd en 1854 relance l'intérêt de Lesseps pour le projet du percement du canal de Suez. De Paris, Ferdinand de Lesseps lui adresse ses félicitations. Il est invité en Égypte et profite de l'occasion pour lui présenter le projet de canal. Reste à convaincre l'opinion européenne, rassurer le sultan d'Istanbul et surtout à surmonter l'opposition du gouvernement anglais qui craint pour sa domination sur le trafic Europe-Asie et pour son propre projet d'un chemin de fer entre la Méditerranée et l'océan Indien. Ferdinand de Lesseps fait appel à l'épargne publique et multiplie les conférences en Angleterre et en France en vue de séduire les futurs souscripteurs. Un firman du 30 novembre 1854 lui accorde l'autorisation de monter une société pour le percement de l'exploitation pendant 99 ans à compter de la mise en service du canal. Il fonde le 19 mai 1855 la Compagnie de Suez. Le Khédive souscrit lui-même au projet et achète près de la moitié des actions. Il va aussi engager le crédit de l'Égypte dans la construction du canal. Ses emprunts à des taux d'intérêt prohibitifs vont contribuer à ruiner le pays et finalement le faire passer sous la tutelle anglaise. Au terme des travaux, le canal, d'une longueur de 162 km sur 54 mètres de largeur et 8 mètres de profondeur, traverse l'isthme de part en part. Des villes nouvelles naissent dans le désert, Port Saïd sur la Méditerranée, ainsi nommée en l'honneur du Khédive, Suez sur la mer Rouge, ainsi qu'Ismaïlia entre les deux. En 1869, les travaux sont achevés, le port est inauguré et on qualifiera même cette journée de « fête du siècle ».
À l'occasion de l'inauguration du canal de Suez le 16 novembre 1869,
écoutons les cérémonies dressées par l'historien Dir ed-Din Hassan el-Hadi.
Le Khédive Ismaïl a invité l'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, ainsi que les rois, les princes et les ambassadeurs du monde. Pour célébrer l'événement international que fut le percement du canal de Suez, comme dans un rêve oriental, un ciel bleu magnifique domine. Trois tribunes accueillant les personnalités ont eu lieu devant le consulat français qui existe jusqu'aujourd'hui à la rue Safiya Zaghloul. Pour la cérémonie religieuse de l'inauguration du canal, la population égyptienne se masse pour assister aux cérémonies. En arrière-plan de cette scène, comme sorti de nulle part, un front de navires prêt à s'élancer annonce le bouleversement des relations économiques et diplomatiques induits par le canal de Suez. L'impératrice Eugénie arrive le 16 novembre à Port Saïd, où se déroulera les premières cérémonies religieuses d'inauguration. Le lendemain, le 17 novembre 1869, alors que tonnent les canons, l'aigle en tête du cortège entrera dans le canal. Le yacht impérial, l'aigle, s'engage le premier dans le canal, transportant le vice-roi, l'empereur d'Autriche, le prince royal de Prusse, le prince des Pays-Bas et de Hanovre, les ambassadeurs d'Angleterre et de Russie. Le soir, on jette l'ancre devant Ismaïlia sur le lac Timser.
La jonction des eaux a lieu le 15 août 1869. De ce jour, le canal abrège de 8000 km la navigation entre Londres et Bombay en évitant de contourner le continent africain. 1956, la ville connaît un accroissement considérable. Diverses crises vont cependant bouleverser la cité. Elle subira quelques bombardements, mais se redressera toujours. Même si en 1967 et en 1973, la ville est en partie détruite dans son conflit avec Israël, la ville fut vite reconstruite. Et son activité portuaire, un temps fermée, de 1967 à 1975, reprit vite son activité. Une pause musicale avec Connelly.
أصل الزبيب من العناب والطعم من النيل يلي أنا الورد وإنت الماء بتسقيني إن جبت دبل
Reposant sur les souvenirs de Port Saïd, je vous propose d'écouter des témoignages. Les habitants de Port Saïd ayant tous vécu à Port Saïd, chacun d'entre eux présente son optique basée sur une expérience personnelle et sociale. Témoignages de l'amour et de la guerre. On s'ouvre sur les témoignages de la célèbre auteure originaire de Port-Saïd, Sekina Foued.
Depuis que j'ai quitté Port-Saïd, dès que j'y retourne, et avant d'y accéder, je me sens comme si je récupère ma vitalité, mon énergie intérieure, avec la mer de Port-Saïd qui coule dans mes veines, avec le sang. Les villes de mer, l'horizon, les plages, le monde entier. Sur les plages de Port-Saïd, j'ai tant rêvé à voler, à naviguer à bord d'un navire pour aller faire le tour du monde. Port-Saïd, c'est la résistance. Ce sont les pêcheurs. J'avais été élevée sur l'image du pêcheur se réveillant tôt pour aller à la recherche du gagne-pain et se sentant toujours satisfait de qu'apporterait son filet. J'avais été élevée sur des modèles qui surveillaient la mer, des êtres forts et extraordinaires qui devraient battre les vagues. J'ai vu le soldat britannique et, en tant que jeunes enfants, on devrait l'effrayer à tout instant. Il y avait une conscience, un amour pour la terre. Nous avons témoigné la période des guerres, celle de 1956. Nous avons vu les chars qui écrasaient les humains, les forces militaires de trois pays qui essayaient d'assiéger une petite ville comme Port-Saïd et empêcher l'armée et la police d'y accéder. La résistance consistait en 10 troupes. J'ai fait la connaissance de la 10e troupe. C'était une troupe féminine dont la chef était une jeune fille de 17 ans, une fille de Port-Saïd qui s'appelait Zeynab El Kafraoui. Sans oublier certainement les héros de la résistance, Tel Mahran, qu'on a privé de vue.
Grâce à leurs multiples souvenirs, cette ville méditerranéenne affiche ses différents aspects. Les Port-Saïdiens ont des us et des coutumes propres à eux qui sont différents des autres gouvernorats égyptiens, surtout pendant Chamenissim. Écoutons le témoignage de Tarek Soudan de Port-Saïd. Le jour de Pâques de Chamenissim, on fabrique des marionnettes et on les fait fourrer de paille et de tissu pour les faire brûler et on les nomme Elimpi. C'est le nom du Lord Edmund Elimpi, un des commandants militaires dans l'armée britannique qui a commis des crimes contre le peuple égyptien dans les rues et les villages de Port-Saïd. Les habitants organisent un concours pour récompenser la meilleure marionnette. En effet, cette tradition est née du jour du départ du Lord Elimpi et sa femme, après avoir été chassés de l'Égypte. Ceci était à travers Port-Saïd, c'était le lundi 15 juin 1925, après son échec en tant que commandant militaire au sein de l'armée anglaise dans sa mission. À son adieu, il n'y avait que le général Aishing, le commandant suprême de l'armée anglaise en Égypte, et quelques ressortissants anglais et européens à l'époque. Les Port-Saïdiens, eux, avaient un adieu différent. Ils se sont inspirés d'une ancienne tradition jadis pratiquée par les Grecs. Ils ont donc commencé à fabriquer une figurine représentant le Lord Elimpi et l'ont fait brûler au milieu du village arabe, aujourd'hui le quartier arabe. Ceci était en signe de dénonciation du régime du commandant Elimpi qui tyrannisait le peuple. Telle est l'histoire du brûlage d'Elimpi par les Port-Saïdiens, une tradition pratiquée jusqu'à nos jours. Les habitants de Port-Saïd ont des traits caractéristiques. Ils étaient formés par la fusion des différentes races qui s'étaient immigrées de cette ville à travers les années. Ses races s'étaient intégrées dans une ville, dénuée des plantes et séparée de ses voisins. Vu l'existence des deux importants services économiques dans la ville de Port Saïd, à savoir le canal de Suez et le port de Port Saïd, les conjonctures ont tellement influencé sur les habitants qui exercent plusieurs métiers liés au port. La ville est devenue le centre fondamental de plusieurs immigrations internationales, y compris la Grèce, l'Italie, et de la Yougoslavie.
Port Saïd est cosmopolite. Il y a les Italiens, les Grecs qui vivent et qui se considèrent Port Saïdiens.
Wafa Rochouane, une Port Saïdienne.
Port Saïd était divisé en deux quartiers. Le quartier, on dit Afrang et Arabe. Afrang, c'est-à-dire le quartier des étrangers, mais il y avait plein d'Égyptiens, mais l'élite. Et l'Arabe, c'est pas populaire, mais c'est la moitié arabe. Aussi les bâtiments. L'architecture à Port Saïd était française. Surtout à Port Fouad, où il y a le canal de Suez, il y avait des villas faites par les Français, où vivaient les ingénieurs qui travaillent au canal de Suez.
Et c'est toujours gardé.
Ce qui est dommage maintenant, on a commencé, ça fait quelques années, de bâtir de nouvelles qui ne sont pas typiques, qui ne sont pas comme le modèle de Port Saïd. Vraiment.
Pendant la colonisation, les Poseidiens avaient la réputation d'être très très solides. Il y avait la résistance populaire.
Oui, il y avait la résistance populaire entre, c'est-à-dire les citoyens eux-mêmes. Et les femmes aussi ont partagé cette résistance populaire. C'est un peuple très jaloux en ce qui concerne son pays. Très patriotique. Dès leur enfance, l'amour de Port Saïd, c'est-à-dire il n'attend pas l'armée.
Le personnage de l'Arabie, il est menteur, il est hypocrite, il est quoi, exagéré, c'est quoi?
Non, écoute, les Port Saïdiens sont des gens qui ont beaucoup, beaucoup d'humour. Vraiment. C'est-à-dire, si tu par hasard un taxi, il parle avec toi. Il ne te laisse pas comme ça. Il parle, il rigole, il te dit des choses qui te font rire sans qu'il rie. Alors, quand on a beaucoup d'humour, on dit toujours des choses qui ne sont pas vraies. Ah, c'est comme ça.
Oui. Et ça existe toujours, ce personnage, c'est-à-dire les gens sont comme ça, toujours
hein? Oui, il y a des gens qui sont comme ça, surtout, je crois, dans les quartiers populaires. Oui, c'est-à-dire, j'ai pris un taxi il y a quelques mois, il y avait un type qui, typiquement, est Abou l'Arabi. Et il m'a fait rire, c'était vraiment trop sympa. C'est comme ça, ils sont des humoristes.
Ce qui caractérise l'ancien Port Saïd aussi. L'ancien Port Saïd, c'est les bamboteyes. Les bamboteyes, c'était des gens... des citoyens simples qui peut-être ils sont analphabètes, mais qui possèdent plusieurs langues étrangères et qui montent sur les bateaux, qui vendent leurs marchandises touristiques et tout ça, et à la fin de la journée ils deviennent très riches, mais ça n'existe plus. Ça c'était vraiment caractéristique à l'ancien Port Saïd. En ce qui concerne la musique, madame, il y a la Semsemé, il y a la Semsemé, mais la Semsemé, c'est pour les trois villes du canal. Suez, Smalé et Port Saïd. Et à Port Saïd, c'était très, très typique. Il y avait des gens qui font quelque chose qui s'appelle Damma. Un regroupement de gens qui se mettent à danser avec les cuillères et à chanter le folklore ou les anciennes chansons de la Semsemé. C'était un peuple heureux, heureux de nature. Et je crois que la mer aussi aide à avoir un moral pareil.
Vous connaissez une chanson?
Oui.
Allez-y.
Ah là 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 là. Ok. Assemseya esmaya sidi elhanshagiya mel por saidi ghanni ya hamam كمان وكمان وكمان بتغني المين والمين والمين بتغني المين يا حمام بتغني المين يا حمام مركب حبيبي يا سلام في البحر جاي يا سلام فردة قلوها يا سلام طيب الطيب يا سلام فيها اللي أحبه ويسأل عليا بتغني لمين يا حمام يا أبو الماطي يا سلام أنا داخلك
وفي كل مولد يا سلام أسعى واجيلك إلا السنة دي يا سلام مانش فاضيلك بتغني لمين يا حمام.
Ça chante quoi toujours le thème des chansons c'était quoi
C'est comme ça, tu vas trouver n'importe quoi, même il parle de sa bien-aimée, il dit dedans Peur Saïd.
Ah ya lali ya lali ya lali ya boul ayoun essouda ya khali ah ya lali ya lali ya lali خليك على كيفك تملي يا سيدي يا لالالي يا روحي يا لالالي يا عيني يا لالالي آهي 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 أول دخول نالجنينة عيط الياسمين يا لالالي والسلسبة ليش تكاول ورد قال دامين يا لالالي يا سيدي يا لالالي يا روح يا لالالي يا عيني يا لالالي آهي آه آهي آه آهي 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 آه
Il possède plusieurs arts folkloriques, à savoir les chansons del Sensemeya et del Bambuteya, qui avaient été composées lors des travaux de la fondation du canal de Suez.
ويمين بالله لازم أصيدها
بتظن إن أنا مش همسكها ويمين بالله لازم أصيدها
وفي كمان الحلوة عن الصبا إلي ليلة هو بليلة يا الله إلي ليلة هو
بليلة يا الله
Oh.
les années d'occupation étrangère vécues par Port Saïd étaient toutefois des années pleines de vivacité. Les citoyens résistaient par les anecdotes, les danses et les chants sur les rythmes de la Semsemeya. D'abord, la ville n'a aucun attrait touristique. Même si à Port Saïd, on ne trouve aucun monument pharaonique ou antique, la ville a son intérêt. Ces fameuses maisons coloniales avec de grands balcons ont forgé sa réputation et son charme. Ce sont les Français qui ont eu l'initiative avec les Égyptiens de construire le canal. Et la légende veut que la statue de la liberté aurait dû être placée à Port Saïd et non pas à New York. La statue de la liberté a été inspirée par les grandes statues Abou Simbel. Auguste Bartholdi a conçu la statue et l'a appelée l'Égypte, apportant la lumière de l'Asie. Mais alors, le Khedive Ismail a décidé que le projet était extrêmement coûteux. Et la statue fut envoyée aux États-Unis, où elle est devenue la statue de la liberté. Le voyageur qui déambule dans les rues de Port Saïd y sentira une atmosphère spéciale, rappelant les quartiers français de la Nouvelle-Orléans. Port Saïd a été dévasté au cours de la crise de Suez et à nouveau pendant les guerres de 1967 et de 1973. Toutefois, la ville est aujourd'hui reconstruite et prête à accueillir les visiteurs. En outre, il est également considéré comme un lieu de villégiature pour les Égyptiens qui sont nombreux à venir profiter de la plage de l'endroit. La rue principale de Port Saïd avec ses entreprises commerciales est appelée la Sharia Palestine. C'est l'endroit même où les grands navires viennent pour entrer dans le canal de Suez et constitue tout un spectacle pour les passionnés de port et de beau. La plupart des visiteurs à Port Saïd ignorent que l'architecture remonte à l'époque coloniale du XIXe siècle. En diagonale du canal de Port Saïd se trouve sa ville jumelle, Port Fouad. Si vous avez suffisamment de temps, assurez-vous de vous promener dans les jardins ainsi que tentaculaires résidences qui s'y trouvent. Les deux villes ont aussi coexisté dans la mesure où il n'y a pas de centre-ville à Port Fouad. Les villes sont reliées par des traversiers, des ferries gratuits qui fonctionnent toute la journée et l'union de ces deux municipalités offre une région avec plus d'un million d'habitants. En dehors de son port, la ville est également desservie par l'aéroport de Port Saïd. Vous trouverez le musée national de Port Saïd qui a ouvert ses portes en l'an 1987. Le musée héberge des artefacts de la plupart des périodes du passé de l'Égypte, couvrant la période pharaonique et de la préhistoire et comprend plusieurs sarcophages et des momies en collaboration avec différentes statues ainsi que d'autres artefacts. Situé sur la Chara Palestine, le musée abrite également des expositions coptes islamiques, y compris des manuscrits, des pièces de monnaie ainsi que les textiles. On y retrouve également une salle dédiée aux objets de la famille de Kedival. En plus de cela, vous trouverez également un musée militaire situé sur les nombreux événements historiques ayant marqué le XXe siècle à Port Saïd et dans l'ensemble de l'Égypte. Ce musée égyptien traite particulièrement des guerres modernes comme le conflit de 1956 anglo-français, débarquement conjoint au canal de Suez, et les conflits israéliens de 1967 et 1973. Le musée possède néanmoins des expositions sur d'anciennes guerres remontant jusqu'à l'Égypte ancienne. Les voyageurs peuvent faire également la visite du musée d'art moderne qui se trouve dans les ports. Quant au climat de Port Saïd, c'est le climat de la Méditerranée. Que vous veniez à Port Saïd pour affaires, en vacances ou si vous voulez acheter une propriété, il est important de connaître les climats de cette région égyptienne. Port Saïd a une température moyenne de 21 degrés. Bien que des variations peuvent parfois changer le climat considérablement, mais la température est toujours agréable. La moyenne en janvier est 14, tandis que le mois de juillet et d'août enregistrent une moyenne de 27. Le temps pluvieux et de précipitations vient en décembre et se produit dans 7 jours. Eh bien, si vous sentez que vous êtes fatigué de votre horaire de travail chargé et que vous souhaitez vous détendre et passer quelques heures à proximité avec la nature, allez à Port Saïd. C'est un endroit idéal où vous pouvez oublier vos soucis et tout simplement se détendre avec vos amis et membres de la famille. Les noms des rues dans la ville de Port Saïd se sont fortement attachés aux noms des gouvernorats du Delta, ce qui confirme le taux d'appartenance des habitants de Port Saïd à leur patrie.
انا تبتي خلاص ما بقاش فيا
اوش طرف الشال يشبك فيا
حلاوتك فيه وانت محلي وكأنك بدر منور فيه
يا حلاوتك فيه وانت محلي
وكأنك بدر منور في حلاوتك في ودم حلي وكأنك بدر منور
ولا كان على البل ولا عني يا ولا كان على البل ولا عني يا بيعلق قلبي في طرف الشر ارحم يا غزال
والنبي يا غزال حول طرف الشر يطرف عيني
يطرف عيني
تحرير في حرير
شيك شطي وشمسية وتحكى نغام سمسمية
درموشك شطي وشمسية وتحكى نغام سمسمية
تويت بحور ومراكبية رايحين في الموجة ومش راجعين تايه يا ناس والشط منين تايه يا ناس والشط منين من وسعيدة والله عليك والله عليك
النبي يا غزال حوش طرف الشر يطرف عيني
يطرف عيني
تحرير تحرير من اسم يطير عيني عيني
عيني عيني
عيني عيني على طرف الشر عيني عيني على طرف الشر النبي يا غزال والنبي يا غزال
بوسعيد إلى في de la résistance par excellence qui aura créé un élan créatif et artistique. Cantara spécial pour Saïd. Ce numéro de Cantara se termine. Merci. Il a été réalisé par Mona Farid, Walid Abdelhadi et Mohamed Mostafa La Technique. Et moi-même, Dina Abdelmeguid au micro. Je vous rappelle que Cantara est le fruit d'une large coopération avec Radio Tunis, chaîne internationale, Mayada Sili, chaîne Interaba, Nadir Abelkhotout et Mohamed Choui, France Bleu, RCFM, Pierre-Marie, Thomas Brunelli et Pierre-Louis Alessandri, Radio Extérieure d'Espagne, Emmanuel Zahra, Algéchien 3, Linda Bouadma et Radio Le Caire, Dina Abdelmeguid. N'hésitez pas à visiter notre page Facebook pour y retrouver tous nos reportages et nos chansons et pour écouter Cantara. Merci, à la semaine prochaine.